Okay, ladies and gentlemen, we're going to start in 1 minute.
Messieurs, dames, nous allons commencer
dans une minute, s'il vous plaît.
S'il vous plaît, prenez place ou quittez la place.
Là, bien. Est-ce que nous sommes prêts?
Bien.
Bonjour à tous. Donc, nous sommes dans la réunion d'Atlas 2 pour donc, le groupe de travail de mise en œuvre des recommandations. Aujourd'hui, nous avons parlé avec le Conseil. Nous avons un peu présenté notre travail. Comme vous le savez, Atlas 2, qui a eu lieu lors de la réunion de Londres, a travaillé pour produire une déclaration avec de nombreuses recommandations. Et ce groupe de travail qui est ouvert à tout le monde est en train d'analyser chaque recommandation et de les analyser, de voir si elles ont été mises en œuvre. Notre travail aujourd'hui est assez simple. Nous allons voir où est-ce que nous en sommes dans les recommandations qui ont été donc mises en place, mises en œuvre. Quelles sont celles qui n'ont pas été terminées d'être mises en œuvre? Quelles sont celles qu'on doit donc stimuler, hein? Donc, on ne va pas... Nous avons 20 minutes de retard, donc nous allons essayer de travailler un peu plus, d'accélérer un peu les choses. Ariel va nous montrer donc un écran. On va travailler directement sur la liste de recommandations que nous avons. Hein. La façon dont le système fonctionne, c'est que chacune des recommandations, hein, si vous cliquez sur le chiffre, le numéro de la recommandation, vous avez une sous-page avec les recommandations, les personnes auxquelles elles ont été assignées et le statut. Si vous cliquez sur la recommandation numéro 1, par exemple, vous allez voir sur l'écran, hein, la recommandation et en dessous les différentes actions à suivre qui sont requises. Et ensuite, nous allons pouvoir donc voir nos besoins et faire la suivi du processus. Lorsque on fait une modification dans une sous-page, cela est immédiatement reflété sur la page. Hein. Donc, ce que j'allais suggérer, c'est que on fasse d'abord une première approche rapide de notre liste. Je sais qu'il y a... On va donner la parole à Ariel. Ariel, hier nous avons travaillé sur un tableau pour voir quels étaient donc notre processus en suspens concernant les recommandations que nous devions aborder. Hein. Est-ce que vous voulez que je revoie cela? Très bonne idée, Ariel. Oui, c'était hier. D'accord. Longtemps, dit Olivier. Bien, d'accord. Donc, si vous étiez présent à la réunion avec le Conseil ce matin, nous leur avons montré un tableau en forme de camembert ou de donut. Ariel va nous le montrer et cela va nous donner dernière diapo. Voilà le tableau en forme de le schéma en forme de donut qui nous montre une idée de l'endroit où nous en sommes concernant ces recommandations. Donc un petit pourcentage a été rejeté. Je crois que c'était une recommandation qui a été rejetée parce qu'elle était donc non cohérente. Nous avons 5% de recommandations qui ont été complétées, mais nous attendons une réponse. Ce sont les recommandations que nous avons envoyées au Conseil. 5%, et ils n'ont pas besoin de réponse. C'est donc les groupes de travail ou ALAC à qui on avait assigné ces recommandations ont fini son travail. 30% des autres recommandations sont des recommandations pour lesquelles qui appartiennent au secteur de la ICANN ou qui dépendent de changements de statut ou de choses qui est liée aux utilisateurs finaux et qui dépendent du processus de l'ICANN. Et donc, ces recommandations dépendent de quelque chose qui a lieu à l'extérieur de l'ICANN ou de large ou de notre communauté. Ensuite, nous avons 21% de recommandations qui sont des recommandations sur lesquelles nous n'avons pas commencé à travailler, qui sont liées à notre processus interne, et 37% des recommandations sur lesquelles nous travaillons actuellement, qui sont en cours d'analyse et qui devraient être complétées à un moment donné ou à un autre. Certaines recommandations sont loin d'être terminées, d'autres sont près d'être terminées. Cela varie. Bien. Nous espérons que la prochaine fois, nous pourrons vous montrer un pourcentage de réalisation de ces recommandations. Je suggère maintenant que l'on analyse les recommandations qui sont en cours d'attente et qui sont importantes. Notre président Alan Greenberg a dit qu'il nous fallait réaliser ce tri. Donc, c'est important d'analyser ces recommandations en fonction de cette approche. Je pense que ce n'est pas facile pour nous de trouver ces recommandations. Heureusement, Ariel a une liste des recommandations qui sont en attente au niveau interne. On ne peut rien faire pour ces recommandations qui sont en attente parce qu'elles sont en attente d'un processus externe. Bien, je vous donne la parole pour des commentaires et ensuite nous continuons. Glenn McKnight. Glenn prend la parole. Je suis curieux, je voudrais savoir, Olivier, si on compare Atlas 1, est-ce que vous avez une mémoire, des mémoires sur la façon dont le processus a avancé au niveau de la mise en œuvre? Où est-ce que nous en sommes au niveau du calendrier, Vous avez des archives dans ce sens. Merci beaucoup, Glenn. C'est Olivier Crépin-Leblanc qui prend la parole. Est-ce que je peux demander à Charles Langdonor de répondre? J'ai une vague mémoire de l'Atlas 1. J'étais directement concernée par l'organisation. Je travaillais dans la partie de l'organisation. Donc, je sais que certaines des recommandations de l'Atlas 1 sont rentrées dans le processus de l'Atlas 2. C'est un mécanisme donc de roulement qui a eu lieu. Charles Langdonor, vous avez la parole. Bien. Merci. C'est un processus, oui, de roulement constant. Et bien sûr, ce qui a eu lieu dans Atlas 1 était principalement de la formation de compétences qui était prévue principalement pour permettre à nos structures at large d'aller à un deuxième niveau, à un autre niveau au sein d'ICANN. Et on a consacré beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à des réunions de préparation et de pré-organisation. Il y a eu 5 ou 7 groupes de travail spéciaux qui ont été responsables d'aborder certains thèmes. Et beaucoup d'entre eux sont devenus des groupes qui existent ou sinon des groupes de travail qui sont archivés, qui sont dans le travail et dans nos archives, le groupe, par exemple, de travail de la technologie. Donc, vous avez eu ici une évolution qui a eu lieu et on a aussi constaté que pendant l'Atlas 1, pendant la réunion d'Atlas 1, un grand nombre de structures at large n'étaient pas très clairement... leur responsabilité, leurs limites n'étaient pas claires par rapport à ICANN, par rapport à la gouvernance de l'Internet. Et à partir de là, nous avons, je pense, eu la possibilité de travailler sur des webinaires, sur du matériel d'information, etc. L'autre chose qui me paraît importante est la reconnaissance d'une interaction et d'une activité croissante avec une participation des réunions en face à les autres choses qui, à mon avis, ont été le fait que l'on a trouvé pendant le processus d'Atlas 1. On a constaté qu'une fois qu'on était sur le terrain au Mexique, on a travaillé dans un autre endroit, pas l'endroit où il y avait les principales réunions. Il y avait un changement de mentalité, peut-être dû à la curiosité, mais on disait, tiens, voilà, c'est ce que sont les structures at large, regardez la diversité. Et donc, il y a eu à ce moment-là un peu des changements, et on a eu aussi un changement au niveau des unités constitutives, et les gens ont commencé à s'intéresser davantage à nous. Et on a constaté qu'on avait le nombre de personnes avait multiplié, s'était multiplié par deux, parce que par exemple pour les sessions des nouveaux GTLD, les sessions, on avait demandé des présentations de la part du personnel et On s'est rendu compte que cela était d'une valeur importante et d'autres gens sont venus assister à ces sessions parce que c'était très utile, hein, très utile pour tout le monde. Donc, je pourrais continuer à vous donner d'autres exemples, mais je crois que ça suffit. Merci.
Merci beaucoup, Cheryl. Une autre question, dit Olivier Crépin-Leblanc, avant que Ariel s'en aille avec le micro. Il y a eu que recommandations. Il y avait des contributions et je me souviens vaguement qu'il y a eu un autre volume de recommandations. Hein? Quelques groupes de travail ont commencé. Il y a eu une série d'initiatives qui ont commencé à cette époque-là. Comment est-ce que cela a été traité? Hein? Est-ce qu'il y en avait si peu? Est-ce que c'était gérable à l'époque? Vous étiez si peu, est-ce que c'était gérable? Oui, c'était tout à fait gérable. On l'a bien organisé tout cela. Les documents, cela a été présenté au président de l'époque, qui était Peter Dengate Trash. Il y a eu des problèmes de ressources humaines. On a directement fait la révision et nous n'avions pas la capacité de faire beaucoup plus. Ça a été fait à l'époque. Mais cela dit, il y avait des déclarations de haut niveau qui étaient articulées dans ce produit, dans le résultat de Atlas 1. C'est bon moment en plus. Et lorsqu'on est arrivé à Atlas 2, nous, au niveau de la crédibilité, de l'efficacité, nos voix ont été davantage entendues et le travail que nous faisions avait évolué beaucoup. Donc, je crois que il faut voir les choses comme ça.
Merci beaucoup, Cheryl, et dit Olivier Crépin-Leblanc. Glenn, vous pensez que ça suffit? Glenn prend la parole. Merci, c'était parfait. La raison pour laquelle j'ai posé cette question, et comment on est passé de Atlas 1 à Atlas 2, comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on améliore notre travail, c'est intéressant de voir l'évolution. Donc, même si j'étais de Atlas 2 et de sa mise en œuvre, je dirais que les gens, on a l'impression que les gens naissent. Hein? Voilà, c'était ça mon commentaire. Donc, voir les résultats de ce qu'on a fait. Merci beaucoup, Glenn. Olivier Crépin-Leblanc reprend la parole. Nous sommes dans un processus, hein, de répétition. Hein? On regarde, on re-regarde des recommandations. Hein? Que quelqu'un d'autre pense qu'il y a une meilleure manière de faire ce travail. Eduardo Diaz, vous avez la parole. Eduardo Diaz prend la parole. Merci, Monsieur le Président. Toutes choses que je peux voir dans le domaine de ces recommandations, hein, c'est qu'il y a un grand volume de recommandations. Et les recommandations, quand on les analyse, c'est difficile. Il fallait regarder quel processus utiliser, hein, pour les analyser. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas, on ne fait pas un bon travail, mais ces sessions, lorsque ces recommandations ont été rédigées, hein, et dans le cas d'Atlas 3, je dirais qu'on pourrait avoir un formulaire de base pour réfléchir les recommandations, aux recommandations, voir dans quel contexte, à qui est-ce que vous pensez qu'elles sont destinées, quelque chose de plus organisé, hein, dans le cas d'Atlas 3 pour rédiger ces recommandations. Parce que ces recommandations, quand on les lit, on a l'impression que quelqu'un a dit quelque chose comme ça et on l'a écrit. Hein. Il faudrait peut-être que ce soit plus spécifique. Hein. Vous avez pris le temps de faire ce travail. Il y a eu de nombreuses réunions qui ont été organisées, hein, et pour essayer de mettre en œuvre ces recommandations. Et je pense que nous aurons, lors de l'Atlas 3, des recommandations qui n'auront pas encore été mises en œuvre d'Atlas 2. Hein. Et Cheryl Langdonor prend la parole. Je me rapproche du micro, dit-elle, pour faciliter la vie des interprètes. Bien, je voudrais soutenir ce que vous dites. Vous avez, Eduardo, vous avez tout à fait raison. Et comme moi, j'ai vraiment soutenu Atlas 2, hein, vous voyez le sourire qui apparaît sur mon visage. J'ai dit, qu'est-ce qu'on a fait lorsque j'ai vu cette énorme quantité de recommandations, hein, de choses, hein, qui découlaient de cet Atlas 2. Hein. Donc, bon, c'est bien parce qu'on a vu que, voilà, presque 900 et quelques jours plus tard, on continue à essayer d'y comprendre quelque chose. Hein. Bien. Donc, je pense qu'avoir une bonne structure, peut-être pas des prérequis, des exigences et très, très précises, mais avoir certaines recommandations, certaines exigences qui nous permettraient d'avoir des informations sur lesquelles on puisse compter davantage. Hein. Lorsqu'on parle de résultats, on doit avoir des résultats qui sont démontrables, qui sont délivrables. Hein. On a besoin de certains points, des choses qui puissent être atteignables, mesurables, etc. Hein. Ce type de choses. Hein. Donc, je pense que avec l'apprentissage de cet Atlas 2, nous pouvons définitivement travailler beaucoup mieux et organiser cela d'une manière beaucoup plus précise. Merci beaucoup, Charles. Olivier Crépin-Leblanc reprend la parole. Ariel, est-ce que nous avons une page wiki sur laquelle on pourrait mettre les leçons apprises? Parce que cela est lié aux leçons apprises, non, d'après ce que vous dites, hein, d'après ce que nous disons. Est-ce que nous avons une recommandation pour demander le fait de demander aux gens qui nous disent qu'est-ce qui, à votre avis, a été utile, qu'est-ce qui doit être lu dans les recommandations? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de recommandations pour lesquelles on se demande est-ce qu'elle a été terminée, est-ce qu'elle a été mise en œuvre ou pas, est-ce que c'est complet ou pas. Cheryl Langdon reprend la parole. Oui. En ce qui concerne Atlas 2, je dirais qu'il y a quelque chose qui pourrait être évité en faisant modèle, quels sont les qui nous indiquerait quels sont les points que l'on peut mesurer, quelles sont les justifications, hein, une 5-7 points qui nous permettraient donc de mieux organiser nos recommandations. Merci beaucoup, Eduardo. Paul. Merci, Olivier. Je vais parler en espagnol. Oui, je suis tout à fait d'accord avec les commentaires que l'on vient de faire, avec ce que Cheryl a dit et ce que Eduardo a dit. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le manque d'intérêt que certaines personnes ont et qui appartenaient à Atlas, hein, qui n'ont pas participé aux recommandations non plus. Donc, je ne sais pas très bien que suggérer pour améliorer ça. Je sais que les gens, au début, étaient très, très enthousiasmés par le voyage, par la réunion, ont participé aux recommandations, et après, tout le monde a disparu. Donc, de nouveau, hein, je voudrais dire ce que je disais il y a un petit moment. Il y a quelque chose qui n'est pas bien fait, peut-être, et qui fait que les gens ne continuent pas à participer, qu'on n'arrive pas à intéresser davantage les gens. Donc, essayez de demander à quelqu'un quelque chose pour qu'il se sente responsable d'une recommandation et que ce ne soit pas toujours les mêmes bails. Faire participer les nouveaux un petit peu, hein, leur dire, voilà, vous avez un bail à réaliser, hein, pour que ces gens qui disparaissent ne disparaissent pas et continuent à participer. Bon, merci, Fatima. Eduardo Diaz, vous avez la parole. Eduardo Pramol. Une chose que l'on pourrait faire est groupes qui font une représentation, quel que soit le modèle qu'on fasse pour les recommandations. Mais assigner une personne responsable à cette recommandation, qui suive la recommandation, ce serait une façon d'obliger les gens à participer pour que les gens ne disparaissent pas. Merci, Edouard. Le groupe de travail lui-même, hein, le groupe de travail de suivi, devrait avoir le responsable de chacun des groupes thématiques, hein, et le conseiller aussi, un conseiller, je ne me souviens plus le nom du membre, hein, mais théoriquement, ce serait les responsables de chacune de ces recommandations. Hein. Pour certaines raisons, une sous-série de cela seulement a été appelée, hein, et certains des présidents qui étaient les présidents à l'époque n'ont pas fait de suivi, n'ont pas suivi non plus Atlas, hein, n'ont pas une base de données des présidents qui manquaient. Hein. Mais comme l'a dit Cheryl, vous pouvez comprendre, hein, tirer des conclusions de ce que Cheryl a dit. Tirer les conclusions de la parole. Bonjour, c'est Murray qui prend la parole. Je ne peux pas lever la main, mais je voudrais le faire de manière virtuelle dès que c'est pour me donner la parole. D'abord, on a Dev. Alors, Dev Anand, vous avez la parole. Merci beaucoup. C'est Dev Anand-Telaxi. Mon commentaire est peut-être que ce que vous pourriez faire, c'est de réunir le groupe thématique, les inviter à participer à votre appel, leur dire voilà les recommandations, voilà ce qui a été fait et leur demander ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est suffisamment correct à leur avis ou pas? Et je pense qu'il y a une liste de diffusion du groupe thématique, etc. Donc, ça devrait être utile, par exemple, pour impliquer les gens et pour les faire participer. Merci, Dave. C'est Olivier. Pourrions les réunir maintenant ou attendre un petit peu et avancer un petit peu dans ce processus interne qui est en cours et ensuite les réunir. Dave Anand reprend la parole. Ce que vous pouvez faire, c'est en tout cas leur parler des progrès, de ce qui arrive actuellement au sein du groupe, au niveau des recommandations. Et je pense que c'est bien de leur donner une petite mise à jour de l'endroit où vous en êtes, hein, au niveau des recommandations et de leur mise en œuvre. Et présenter cela à chacun des groupes thématiques. Merci, Paul. Merci, Dave. Glenn McKnight. Glenn, Paul, ce que Dave n'a pas mentionné, il a dit dans son groupe de travail sur la participation, il a été très clair sur les réunions auxquelles nous avons participé. On nous a assigné ces recommandations d'Atlas 2 et Dave s'est assuré que l'on réponde à toutes ces communications. Donc, je pense qu'il a déjà commencé et qu'il s'est dit que cette stratégie était déjà mise en œuvre. Je pense que c'est une bonne manière de travailler, oui. Olivier Grépin-Leplomb reprend la parole. Il y a d'autres commentaires sur la suggestion de Dave à propos donc d'un webinaire ou d'une mise à jour à tout le monde sur l'endroit où nous trouvons actuellement. Je ne pense pas qu'on doive organiser 5 webinaires pour les 5 groupes thématiques. Est-ce que vous voulez avoir une seule téléconférence, une seule webinaire pour les 5 groupes? Dave Anand reprend la parole. Si vous voulez une seule téléconférence, ça peut être long. Ça risque d'être long, hein, pour les 43 recommandations. Donc, je pense que vous pourriez avoir une session avec chaque groupe thématique séparément. Hein, parce que ça vous permet de diviser et ce sera plus facile à gérer. Hein. Je pense qu'il faudrait organiser 5 webinaires. Voilà. Merci beaucoup, Dave, dit Olivier Crépin-Leblanc qui prend la parole. Est-ce que quelqu'un voudrait se porter responsable pour l'organiser ou pour organiser ces... Fatima Cambronello prend la parole. Merci, Olivier. Il me semble qu'il est important d'informer et les autres, de faire une mise à jour de ce qui a été fait pour tous ceux qui n'ont pas suivi ces procédures. Mais j'insiste, je pense que la manière de faire participer les gens, c'est vraiment de leur donner une responsabilité assumée concrètement, parce que leur dire ce qu'on fait, c'est toujours un peu la même chose. Les gens vont dire, OK, je sais au moins ce qui est fait, mais je ne participe pas. Donc, il me semble que dans ce webinaire, outre les informations qu'on pourrait leur donner, je demandais des volontaires à avoir des tâches qui soient signées à chacun, hein, pour qu'on puisse passer à l'étape suivante et qu'il y ait davantage de gens qui travaillent. Ça ne suffit pas, hein, on n'est pas suffisamment nombreux pour faire tout le travail. Hein, c'est un groupe qui ne travaille, qui n'avance pas assez et on est en retard. Donc, on a besoin de davantage de gens qui travaillent activement dans notre groupe. Et Crépin-Leblanc prend la parole. Oui, tout à fait, Fatima, je suis d'accord. Qu'est-ce que vous nous recommandez de faire? On devrait avoir un webinaire et poser des questions pour chacun des groupes thématiques. En nous basant sur le travail réalisé jusqu'à maintenant, est-ce qu'on devrait assigner la tâche de conclure un problème ou une question, ou mettre en œuvre un problème ou une question, à l'assigner à quelqu'un? Ou est-ce que vous avez une autre idée là-dessus? Est-ce qu'on devrait donner la responsabilité au président du groupe thématique pour qu'il entre en contact avec les membres du groupe thématique quand ils existent, hein, parce qu'on peut tirer aussi profit de ces groupes thématiques. Prend la parole. Peut-être ce qu'on peut faire, c'est convoquer les présidents de chacun de ces groupes thématiques et voir s'ils ne sont pas intéressés ou qu'ils ont d'autres activités et ne peuvent pas assumer cette responsabilité. Mais convoquer le groupe. Et ensuite, parallèlement, avoir certaines tâches déterminées pour chaque groupe, pouvoir réunir, hein, associer une tâche à une personne. Sinon, ça n'a aucun sens de les convoquer si on ne leur donne pas une tâche spécifique. Ensuite, la question des... Vous avez dit à propos des questions. Pour savoir quelle est leur situation, quelle est des recommandations aussi, Donc, je pense qu'il faudrait, on pourrait faire ça et puis peut-être quelque chose de plus, je ne sais pas quoi, qu'on pourrait proposer pour avancer. Olivier Crépin-Leblond prend la parole. Merci beaucoup. Et non, le détail de ces groupes thématiques et les pratiques. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires là-dessus? Et c'est Murray qui prend la parole. Allez-y, Murray. Je vois que Dave aussi a la main levée. Ah non, Dave a baissé la main. Murray, vous avez la parole. Merci, Olivier. Murray McCutcher prend la parole à distance. Je m'excuse d'interrompre quelques commentaires. Je sais que, Olivier, vous avez eu une réunion avec le conseil après Atlas 2 et pour voir comment on devait procéder. Et je crois que vous leur avez présenté une liste de recommandations. Et mon autre commentaire, est-ce que vous pourriez nous parler de cette réunion avec le conseil? Et mon autre commentaire, au niveau du processus, comment est-ce qu'on met en ligne les recommandations qui sont sur la table avec le groupe de politique d'ICANN? Parce que finalement, on essaye de faire des mouvements qui sont politiques et qui concernent politique. Donc peut-être que nos recommandations sont vastes pour l'ICANN et ce serait une manière de les mettre... De les formuler dans une langue plus spécifique. Et ensuite, je demanderai au président de se remettre en contact avec les bandes d'Atlas 2. Merci beaucoup, Murray. C'est Olivier qui reprend la parole. Nous avons décrit ce que nous avons fait pendant la dernière année et demie jusqu'à maintenant. On a parlé des recommandations, du tri, de la sélection que nous avons essayé de réaliser. Et le conseil ne nous, depuis cette réunion, nous avons parlé de tout cela. Le conseil ne nous a pas à nouveau contactés. Hein. Nous avons fait le suivi des recommandations. Nous les avons contactés pour leur dire le travail qui avait été fait dans le domaine des webinaires de formation de compétences et d'une des recommandations qui avait été mise en œuvre et qui sont faites. Donc, mais le travail que nous avons ici, que nous avons réalisé ici, est destiné à mettre en œuvre et à faire participer le groupe original d'Atlas 2, à lui demander davantage de participation et à essayer les présidents de ces groupes thématiques. Est-ce que quelqu'un pense à une meilleure manière de travailler dans ce sens?
Glenn McKnight et puis Eduardo Diaz. Glenn, vous avez la parole. Je pense que vous êtes un peu trop optimiste, dit Glenn, si vous pensez que cela va fonctionner, parce que les personnes n'ont pas participé ainsi. Il y a déjà un bon moment qu'on a commencé à travailler. Et, ça n'a aucun sens. Voyez, vous perdez des énergies là-dessus et ça vieillit. Hein. Ça vient depuis juin de l'année dernière. Ça dure depuis. Alors, je pense qu'on peut passer beaucoup de temps à essayer d'obtenir les commentaires des gens et vous n'allez rien faire. Merci Glenn. C'est Olivier. Est-ce que c'est pour répondre à Glenn? Non? Alors Eduardo Diaz. Eduardo Diaz prend la parole. Merci Olivier. Alors entre Atlas écrit et maintenant, je ne sais pas si la transition va se faire. Personnes qui ont mal avec d'autres domaines aussi. Donc il faut ici voir comment on veut faire en termes de passion. Léon a lui-même siégé dans un autre groupe. Il n'y a aucun problème avec ces activités. Olivier prend la parole. Oui, merci, Eduardo. C'est correct. Effectivement, il y a eu des modifications. Et cependant, je ne vois pas dizaines de personnes à large qui veulent participer à la transition. Ils travaillent sur ces recommandations d'Atlas 2. On ne parle pas de grandes quantités de personnes. On a toujours ces inquiétudes d'intéresser les personnes. Comment on peut intéresser les personnes pour rédiger ça. Donc, vous voyez. Donc, on passe à Fatima Cambronero maintenant. Fatima prend la parole. Merci, Olivier. Bien sûr, je suis moi-même d'accord avec ce que vous venez de dire. Et donc, peut-être que si on faisait un annuaire des personnes qui participent, on pourrait peut-être avoir un meilleur point de départ pour voir comment gérer ces activités. Une autre suggestion possible serait de gérer par année, c'est-à-dire pour l'année prochaine. Quelle de ces recommandations serait prioritaire pour que l'on puisse conclure ou à la fin de l'année sans essayer de tout comprendre parce qu'on ne peut peut-être pas tout faire et finalement on perd des activités, on a des choses qu'on n'arrive pas à faire, on a des recommandations qu'il faudrait finir avant la fin de l'année pour que ce soit plus simple. Alors, comme annuaire des gens qui participent, on verra si on peut le faire ou pas. Donc je pense que c'est peut-être aussi la manière de pouvoir faire un travail plus concret. Merci. Demain, dit Olivier. Je pense que nous avons maintenant de nouvelles idées pour essayer d'avancer avec ça. J'ai entendu tous ces retours, toutes ces demandes de contact avec les présidents du groupe. On a des experts dans la matière, des modérateurs des séances, des assistants des modérateurs des séances et des rapporteurs. Et on a aussi des assistants de ces modérateurs. On a beaucoup plus de personnes qui travaillent pour organiser cette séance que de personnes. Il y en a qui participent, il y en a qui sont partis, il y en a qui ne font plus partie du conseil de l'ICANN. Vous voyez, on a un peu de tout. Alors, je suggérerais que l'on continue de travailler, mais il ne nous reste plus que 5 minutes. Alors, on pourrait peut-être voir rapidement notre liste de processus interne à conclure. Alan, vous êtes 10 minutes en retard, donc peut-être vous pouvez nous permettre de prendre 10 minutes de plus parce qu'on essaie ici un triage et on n'a plus rien d'autre qui soit écrit dans la page des GTLD. Pour au reste, on essaie de travailler en dehors avec la TRT sur la responsabilité. On peut leur permettre d'avancer parce qu'on a beaucoup de travail et on ne veut pas leur empêcher d'avancer. Alors, Eduardo, l'ICANN devrait considérer la possibilité de renforcer et d'augmenter la communication entre les agents de liaison qui les représentent auprès des différents comités consultatifs et auprès des entités. Éliminer cette culture de silo, cet isolement. C'est vrai qu'on dit ici l'ICANN devrait considérer. La GNO a certainement beaucoup fait pour essayer d'avoir plus de contact avec le GAC. On a déjà une agente de liaison auprès du GAC maintenant. On n'a pas pu avoir d'autres liaisons avec Adlarge. On pourrait peut-être appeler avec Adlarge pour voir si on ne peut pas établir de liaison avec GAC. On en a discuté. Peut-être on pourrait penser à cette idée d'avoir une liaison avec le GAC. Mais pour éliminer cet isolement, chose qui n'a pas été mise en œuvre, mais qui est en cours de préparation, si on a la visite de Jean-Jacques Sahel, qui sur la participation de la société civile. Alors, c'est des initiatives communautaires qui vont éventuellement pouvoir finir avec cet isolement. Satish Babu, la parole, merci. Je suis d'Aperalo. J'ai très peu participé à ce processus parce que j'ai intégré le NOMCOM l'année dernière, mais je voudrais offrir mon temps comme bénévole. Mais ce serait intéressant de participer à la révision de ces 3 points, je pense. Ce serait une bonne idée de réévaluer qu'est-ce qui nous manque dans la transition. Alors, si vous sentez toujours que c'était important et que ce qui t'impose devrait être revisité, on devrait peut-être reprendre des questions qui sont pertinentes. Mais comme Glenn dit, on a des points qui ne sont pas pertinents. Alors, c'est un gaspillage d'énergie. Merci, dit Olivier. Alors, si c'est toujours pertinent, on avance. Sinon, si on ne l'est pas, on l'abandonne. Eduardo Diaz prend la parole. Bien, on prend celle-là. Et vous avez parlé d'une alliance en permanence avec le GAC. Donc, peut-être qu'on pourrait donner une action à suivre de l'ALAC dans l'ensemble et conclure ce point, cette recommandation. Il faut que l'on ait une approche plus proactive. Ça ne veut pas dire que ça va se concrétiser, mais au moins, on essaiera. Merci, Eduardo. Maintenant, Glenn McKnight. Glenn prend la parole. On a commencé avec des séances de remue-ménage, d'activités, de stratégies pour des organisations qui avaient plein d'idées, comme on a ici. Et on commence à les synthétiser, à résumer. On arrive à des listes comme celles qu'on a ici. Et on n'avance jamais. C'est pour ça qu'on a 10, que c'était le 10, les commandements. C'est parce que c'était l'essentiel. On ne pouvait pas avoir toutes les règles. Merci, Glenn. Dit Olivier. Ce que me dit Heidi est que la séance qui suit s'occupe des recommandations du sommet à large et on inclut la mise à jour dans l'ordre du jour. Puisqu'il n'y a personne d'autre à mettre à jour, ici, on pourrait peut-être prendre un peu plus de temps. Donc, j'entends deux histoires, deux idées. Edward dit qu'on va considérer que c'est clé, en disant Oui, c'est ce qu'on fait. L'ALAC va travailler sur l'établissement d'agents de liaison avec d'autres SO et AC. Et le personnel fait tout ce qu'il peut pour établir ce type de culture. Et j'entends dire que c'est également obsolète. Donc c'est incomplet, cela. Ce serait mieux si c'était complet, vous voyez. Parce que obsolète, désuet, ça veut dire qu'on n'a rien fait, que ça a vieilli. Raph Fatani, Dani prend la parole. C'est avec Léon qu'on avait écrit ça, non? Ce qu'on considérait lorsqu'on pensait à ça, c'est d'avoir des activités qui pourraient être un obstacle pour la création de ces divisions. Par exemple, il y aurait des activités au sein des différents groupes qui pourraient inviter uniquement des événements, ce qui créerait une culture différente. Et donc, c'est un peu à quoi en penser. Je sais que c'est très difficile de pouvoir faire cela, parce qu'on parle ici d'événements privés qui ne sont pas dans la mission de l'ICANN, mais en même temps, on parle d'événements qui sont vraiment dans la culture plus large de l'ICANN. Donc, ça va être un point de charnière. Merci, Raf, dit Olivier. Je pense que ce groupe de travail ne peut rien faire autre que d'accepter de créer un groupe de travail intercommunautaire, mais j'aimerais bien participer à ce groupe. Il y a beaucoup de personnes qui voudraient sans doute le présider. Mais oui, c'est difficile. Holly Reich prend la parole. Oui, on devrait également avoir beaucoup de participation de la LAC dans d'autres domaines, dans d'autres activités. Et si vous regardez, par exemple, vous verrez où on a des agents de liaison et il faudrait voir si on devrait prendre des mesures qui résultent de ce que disent les agents de liaison. Donc la participation de la LAC avec la communauté est un domaine auquel il faut vraiment penser parce que c'est la bonne manière de venir avec cet isolement. Merci. Ariel prend des notes? Non, elle ne prend pas des notes? Ah oui. Bon. Elles nous disent, Ariel Young prend la parole. Non, j'écouterai les enregistrements plus tard et je prendrai les notes pertinentes. Merci Ariel. Dit Olivier, ça tiche? Non? D'accord, donc on le marque comme complet parce que ça va faire plus beau. Merci. Alors, suivante, numéro 8. La LAC suit toutes les recommandations. C'est constant, on ne peut pas dire que c'est complet. Ça, c'est en cours, on avance. Parce qu'on travaille dessus. Oui, Eduardo? Eduardo Diaz prend la parole. Oui, mais c'est un exemple de ce que nous faisons. Il faut le laisser là, parce qu'en fait, on travaille dessus. Et même si ça n'avait pas été une recommandation, on serait occupé de ça. Donc, il faudrait l'enlever, je pense. Mais si on élimine ce devoir de le faire, on enlève ce devoir et on ne le fait plus, voyez? Vous voyez, maintenant, vous n'allez plus le faire, en fait, parce qu'on l'enlève. Non, c'est pas vrai. Est-ce qu'on le marque comme étant complet? Fatima, qu'est-ce que vous en pensez? Non, je voulais pas lever la main, c'est lui en fait. C'est Murray qui lève la main. Oui, je suis là, dit Murray. Allez-y, Murray, dit Olivier. Il me semble, dit Murray, qu'en lisant ça, on a bien suivi les actions qui étaient prises par rapport aux recommandations. Donc, ça fait une déclaration, vous voyez, ça veut dire oui, c'est vrai, on a ce devoir et on va s'en occuper jusqu'à ce que la recommandation sera complète. Bien, dit Olivier, je vois beaucoup de cartes de non levées. Y a-t-il d'objections? Cheryl? On ne l'entend pas, on ne reçoit pas le son dans la cabine. Le micro ne fonctionne pas. Non? Oh, voilà. Cheryl, au micro, alors c'est la recommandation numéro 8, n'est-ce pas? Lorsqu'on lit cela, on parle des recommandations précédentes. Avant la 8, ça veut dire la recommandation numéro 7. Et on a 40 et quelques. Alors, ça ne se comprend pas très bien. Si vous allez agir, si vous voulez faire quelque chose là-dessus, faites quelque chose qui soit clair. Et c'est un très, très bon exemple d'une recommandation qui est vraiment très mal écrite. Merci, Cheryl, dit Olivier. Ça doit être la recommandation qu'on a rédigée à 2h du mat'. C'est vrai que c'est toujours comme ça, samedi soir, 2h du matin, on écrit n'importe quoi. C'est la plupart des accidents. C'est à ce moment-là qu'on lieu la plupart des accidents. Hein. On marque alors comme complet, c'est noté. Il n'y a eu aucune objection pour marquer cela comme complet. Et on fait ce qu'il y a. Alors, les membres de la LAC devraient se lever le matin, pensant à tout ça parce que c'est trop, trop évident. C'est trop facile, cela. Oui. Quelle est la recommandation suivante? Numéro 30. Pour chaque processus de commentaire public, les ESSO et les AC devraient avoir suffisamment de ressources pour pouvoir élaborer ou rédiger des déclarations ayant un impact. J'aime bien ces déclarations d'impact. Eduardo? Eduardo Diaz prend la parole. Je propose que l'on marque cela comme complet parce que c'est ce qu'on fait. C'est quelque chose de très subjectif. Est-ce que vous avez un impact? C'est ça, c'est difficile à mesurer. Mais on le fait, hein? Du processus que nous suivons. Et donc, dans ce processus, on a une page wiki où on mesure l'impact, on assure le suivi des déclarations, on travaille avec les ESSO, les AC. On leur dit qu'il faut qu'ils fassent ce que nous faisons aussi. On travaille ensemble avec eux, ça fait partie du processus. Merci, Eduardo, dit Olivier. Alan Greenberg? Alan prend la parole. Oui, juste... pour que vous sachiez, je pense que ça faisait partie de ce que disait le groupe de travail sur la mise en œuvre de politique. Mais les PDP de la GNSO vont devoir maintenant suivre ce processus. Et certaines de ces déclarations vont devoir être modifiées dans ce sens. Ce n'est pas ce que nous faisons, mais c'est du travail en cours et du travail qui peut être appliqué si nos recommandations peuvent être appliquées avec les fonds suffisants pour pouvoir le faire. Donc c'est sensible pour nous, hein, c'est important. Merci Alan, dit Olivier. On a maintenant Marie McCutcher qui veut prendre la parole. Marie, vous levez la main? Non, pardon, c'était une vieille main. Merci. Alors Eduardo? Eduardo Diaz prend la parole. Oui, juste pour préciser Alan, quelle est la différence entre une déclaration et une déclaration d'impact? Je ne comprends pas très bien. Et s'il vous plaît, Alan, dit Olivier. Alan prend la parole. Bah, si vous regardez le vocabulaire des tuyaux, les déclarations d'impact sont des déclarations qui suivent une étude très profonde suivant les politiques de la GNSO. Donc, lorsqu'on voit l'impact de décisions spécifiques qui pourraient avoir un impact financier sur les organisations ou une utilisation restreinte, ça pourrait être vraiment quelque chose de très sensible. Merci, Alain, dit Olivier. C'est vrai que ça porte sur les déclarations que nous rédigeons et c'est plutôt orienté vers l'impact sur les utilisateurs finaux concernant la question dont on s'occupe au sein de l'ICANN ou dans les actions de l'ICANN. Alors, quel est l'impact que cela a sur les utilisateurs finaux? Au moins, c'est ça que je comprends pour l'ALAC. Alan? Alan prend la parole. Oui, pour approfondir un peu plus à ce point-là, on a l'habitude de compléter nos déclarations disant ça va avoir un impact sur les utilisateurs. Et ici, on applique. On voudrait faire une étude pour montrer si ça a vraiment un impact. Ce n'est pas simplement notre avis. Merci, Alan. Dit Olivier. Holly Reich, maintenant. Holly prend la parole. Oui, c'est un exemple, en fait, de ce qu'on peut voir sur la liste. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup parmi nous, qui sommes restées jusqu'à très tard, la nuit, pour pouvoir conclure cela. Et si on voulait faire du travail, suivant des actions à suivre, et qu'on voulait s'assurer qu'on a suffisamment de fonds pour tout faire, je ne pense pas être d'accord. Mais si on va prendre note d'action à suivre, on devrait dire que l'ALAC doit comprendre dans les demandes de budget suffisamment d'argent pour fournir les ressources ou qu'on devrait pouvoir fournir les ressources de manière à ce que l'ALAC soit équipée pour fournir des informations concernant l'impact tel qu'inclus dans les commentaires. Ce n'est que ainsi qu'on va pouvoir comprendre ce qu'on veut dire. Ce n'est que cela qui va traduire ce qu'on fait. Merci, dit Olivier. Merci, Oli. Vous allez voir que le destinataire sont les présidents des ESSO et des AC de At Large. Peut-être que Alan pourrait proposer aux différents présidents des ESSO et des AC la discussion de cette question partout dans l'ICANN. Je vois qu'on parle de Rosie Alan. Mais je ne suis pas très sûre de la réalisabilité, la faisabilité de cela. Est-ce que cela implique que si on n'a pas des ressources exclusives, on ne peut pas le faire? Merci, Alan, dit Olivier. J'ai une liste de personnes qui souhaitent intervenir. Donc, Fatima, Satish, est-ce que c'est spécifique? D'accord, allez-y, Cheryl Langdon prend la parole. J'ai suivi un nombre de définitions parce qu'on a différents types de formes de déclaration d'impact, ce qui comprend environnemental, par exemple, l'impact environnemental, l'impact des déclarations. On n'a jamais mesuré tout cela. Mais en fait, pour nous, ça pourrait être utile dans ce domaine, l'analyse ou l'étude qui décrit l'effet espéré ou attendu d'un projet, d'une politique ou d'une action qui est considéré par une organisation gouvernementale ou une société. Donc, si on va faire une déclaration qui utilise ce terme de déclaration d'impact, ce qui est un terme, y compris dans les tribunaux, il faut que l'on définisse ce terme, et c'est ce qu'on nous demande. Donc, je propose ce terme pour votre considération. Merci, Charles. Olivier, Fatima, Cameronero prend la parole. Je vais parler en espagnol, bien sûr. Je ne sais plus d'où vient cette recommandation. Moi, je ne me souviens pas de la discussion. J'ai une lacune. Et je la relis maintenant et je sens que c'est plutôt un principe, pas tellement une recommandation. Que ça devrait peut-être être un principe qui oriente les travaux d'ALAC. Je ne sais pas si on peut l'enlever de ces listes et le transformer en principe, règle ou guide. Mais pour moi, ce n'est pas vraiment une recommandation. C'est quelque chose qui devait orienter nos travaux sur les déclarations, surtout sur comment on compte rédiger les déclarations. C'est ce qu'on devrait avoir fait toujours. Merci, Fatima. Dit Olivier, on a maintenant Satish Babou. Si je prends la parole, merci, Olivier. Je reprends ce que disait Fatima. Parce que c'est vrai qu'il faut institutionnaliser cela dans l'avenir. C'est pas tellement ce qui est fait. Alors, il faut isoler les autres points qui sont ici, qui appartiennent aussi à d'autres domaines et qui devraient être analysés. Et c'est la manière dont l'ALAC opère et va opérer dans l'avenir. Merci, Satish, dit Olivier. Je pense et je me demande d'ailleurs si c'est bien le travail du groupe thématique auquel j'ai participé hier. Ah, pardon. Oui, Dev, allez-y. Dev Anand prend la parole. Merci. Je pense que cette recommandation parlait de ce que vous dites, Olivier, de la possibilité que l'ICANN fasse une évaluation de l'impact et voit si ça affecte les utilisateurs ou les titulaires de nos domaines. Parce que les textes des consultations, on pourrait dire, il y en a un rapport de la GNSO ou un rapport dans notre groupe sur une certaine question et les utilisateurs vont considérer la déclaration, ils vont se demander qu'est-ce que ça a à voir avec le reste. Alors, c'est le but de la recommandation, je pense. Que le commentaire public sera publié, il faudra qu'il y ait une évaluation de cela. Les commentaires publics sur cette recommandation vont évaluer, en fait, c'est merci Deb, dit Olivier. Je pense que je commence à comprendre un peu de quoi on parle ici. Je me rappelle un peu quelle a été la discussion. On entend dire oui, l'ALAC envoie une note à la liste de diffusion demandant aux membres s'ils veulent faire des commentaires sur des recommandations auxquelles personne ne répond parce qu'on ne sait jamais quel est le niveau d'impact ou comment mesurer l'impact là sur la communauté d'utilisateurs finaux. C'est-à-dire qu'afin de pouvoir élaborer une étude de ce type, savoir quelle est la déclaration d'impact, on devrait avoir des ressources suffisantes pour pouvoir le faire. Oli Reich prend la parole. Je pense que Dev a tout à fait raison et c'est une action à suivre dans le sens que quiconque soit le rédacteur ou pour inclure, c'est pourquoi faire des commentaires pertinents pour les UNO. Et après l'action, on devrait comprendre l'idée pour que les personnes se rendent compte de l'importance de cela. De la RTP, par exemple, on va dire c'est important pour les utilisateurs finaux, mais on ne le sait pas si on ne le considère pas. Alors, vraiment une demande pour que tous les rapporteurs incluent une explication de pourquoi cela est important pour les finaux, de l'impact que cela aurait si c'est mis en œuvre ou si c'est mis au lit, dit Olivier Alan Greenberg. Alan prend la parole, merci. Il y a différentes manières de l'opérer. Si on inclut ce que Holly vient de dire, il va y avoir certains groupes au sein de l'ICANN qui pourraient dire « Bon, c'est votre avis, d'accord ?» Et il faut le montrer, il faut le prouver. Donc, on a fait des études, on parle de faits ici. Mais si on veut faire autre chose, autre que de transmettre nos opinions, ça prendrait plus de temps. Ça nous donne aussi la possibilité de dire si le groupe pas la recommandation de faire une étude d'impact sur les utilisateurs pour dire non, pardon, on n'est pas en mesure de faire des remarques. On n'a pas correctement considéré. On ne peut pas savoir quel est l'impact sur nos communautés. Vous voyez, il y a différentes manières, mais je ne sais pas très bien comment on pourrait le faire. Merci Alan, dit Olivier. Maintenant, Eduardo. Eduardo Diaz prend la parole. Je recommande que l'on finisse cela, hein, qu'on le mette comme étant complet, parce qu'on discute de cela au sein d'un groupe qui s'occupe des différentes recommandations. Ce que je veux dire, c'est que si c'est important pour ALAC, il faut que ça devienne une action à suivre pour ALAC, pour que l'on change la manière dont on fait les déclarations ou dont on mesure l'impact en tant qu'action à suivre, puis qu'on puisse le gérer en tant qu'action à suivre entre nous tous au sein de l'ALAC. Donc voilà pourquoi on le ferme comme ça, parce que ça va poser problème autrement. Il y a un problème ailleurs. Hein. Satish Babu prend la parole. Moi, je soutiens ça. Le principe qui doit survivre les recommandations, ça doit faire partie de la manière dont nous travaillons. Ça doit être intégré à notre ADN. Merci Satish, dit Olivier. Maintenant, Fatima Cambronero. Fatima Cambronero prend la parole. Merci Olivier. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je suis d'accord avec ce que disent Eduardo et Satish. Il faut qu'on décide ou qu'on résolue cela internement à l'ALAC. Parce que si chacune de nos déclarations doit être accompagnée d'une étude ou d'une recherche, un impact ou pas, on ne va plus avoir de rédacteurs. On a peu de personnes qui rédigent les déclarations. Si on demandait un travail supplémentaire, il n'y aurait plus que Alan et moi. Donc, il faut le discuter. Vous m'envoyez ? Merci. Merci, Fatima. C'est Olivier qui parle. Moi, j'ai un avis un peu différent. On peut revenir au recours. Je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit ici par rapport à la quantité de ressources qui seraient nécessaires de nos propres bénévoles qui devraient faire des évaluations d'impact, des déclarations de chaque déclaration. Je ne suis pas d'accord avec les volontaires, les bénévoles qui devraient faire pour la déclaration, pour la rédaction de chaque déclaration, ce que ça implique pour les maires, pour les personnes, pour les cyclistes, peu importe. Mais c'est beaucoup de travail. C'est vraiment quelque chose de très sérieux. Ce qu'on veut dire par cela, c'est que suffisamment de ressources impliquent qu'on devrait avoir le temps du personnel. Alors, on a vu qu'il y a une déclaration et donc on devrait voir qu'il va avoir un impact. Donc, on devrait voir quel sera l'impact pour chaque communauté. Si la communauté Adler recevait de l'aide pour traduire les commentaires publics ou une consultation publique sur l'IRTP par D, il faudrait voir l'impact sur les utilisateurs, parce que si on pense aux utilisateurs finaux, on a déjà trop de travail au sein de cette communauté. Et si on ajoutait davantage de travail à faire, c'est un peu difficile. Alan Greenberg prend la parole. Alors, je pense que ça a soulevé un peu la question devant le monde. Ça sensibilise. Alors, je dirais personnellement que ce n'est pas faisable. Chose qu'on peut essayer de faire et pas nécessairement une action à suivre pour demain. C'est chose qu'il nous faut. Hein. Dit Alan, dit Olivier, je sais qu'on est 20 heures en retard et que la prochaine séance va commencer spécifiquement avec une mise. Alors, ce que je suggère, c'est que l'on fasse une petite pause pendant que l'on relance le système et que l'on reprenne la discussion. On va faire une pause qu'à 2h30, qu'on commence, c'est l'heure à laquelle on va commencer avec le lancement du nouveau site web de l'ICAN. On va donc clôturer la séance et en 10 minutes. There will be a very important